VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, au moins 7 morts et plus de 40 disparus dans le naufrage d'une embarcation dans le nord-ouest du pays. Et toujours en RDC, le bilan des victimes du virus Ebola revu à la baisse. On reviendra sur les précautions prises dans nos dossiers du jour.
À l'heure actuelle, on ne se salue pas, hein. On ne s'embrasse pas. Voilà. On ne mange pas les gibiers ou les animaux de la forêt.
À Madagascar, la Cour constitutionnelle a donné 7 jours au président pour composer un gouvernement d'union nationale. Aux Comores, l'opposition dénonce les abus de pouvoir du président Azali Assoumani. Et le plus grand griot malien, Kassé Madi Diabaté, nous a quittés. Dans la Minute Éco, 30 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel et avant-goût de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, le naufrage d'un bateau a fait au moins 7 morts, 42 portés disparus depuis mercredi nuit. L'accident a eu lieu sur la rivière Chwapa, dans le nord-ouest du pays, une région déjà touchée par une épidémie de fièvre Ebola. Des détails avec Anastasie Tudiech.
Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Selon plusieurs témoins, l'embarcation, propriété d'un homme d'affaires local, avait plusieurs dizaines de passagers à bord et une grande quantité de marchandises. Le bateau naviguait sans lumière dans la nuit de mercredi à jeudi. Pourtant, une réglementation officielle interdit aux embarcations de fortune de naviguer la nuit sur les eaux congolaises. En l'absence d'un système de transport public organisé sur les nombreux cours d'eau du pays, des particuliers ont investi le secteur du transport fluvial. La majorité de la population utilise ces navires de fortune pour leur déplacement à cause du faible coût. Les activistes de la société civile dénoncent régulièrement le non-respect par ces exploitants de la réglementation en matière de tonnage et de confort, mais également le laxisme des autorités.
Et par ailleurs, le bilan de l'épidémie de fièvre Ebola qui s'était déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à 600 km au nord de Kinshasa, est révisé à la baisse. 22 morts et non 25 comme précédemment annoncé. République démocratique du Congo toujours. 5 militaires ont été tués, 13 blessés hier lors d'une offensive de l'armée congolaise contre une base des rebelles ougandais, des forces démocratiques alliées, les ADF, dans la région de Beni dans l'est du pays. La veille, l'armée avait indiqué avoir tué 10 ADF dans une offensive contre ces rebelles ougandais musulmans. Les magistrats de Doba dans le sud du Tchad ont décidé de fermer leur tribunal suite à des tirs survenus mardi par des gendarmes en direction de la voiture d'un avocat transportant 3 de ses clients. Ce genre d'accident est récurrent au Tchad. Les forces de l'ordre viennent souvent dans les locaux des tribunaux, a regretté le secrétaire général du syndicat de magistrats du Tchad. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, passera la journée internationale des casques bleus mardi prochain auprès des troupes de la mission de paix au Mali, la MINUSMA. C'est la plus coûteuse en vie humaine pour les opérations des Nations Unies. En plein préparatif des élections présidentielles fin juillet, il rencontrera au cours de sa visite de 2 jours le président Ibrahim Boubacar Keïta et le premier ministre Soumeilou Boubé Maïga. Et en Côte d'Ivoire, à 2 ans de la fin du mandat d'Alassane Ouattara, une dizaine d'organisations de la défense des droits de l'homme demandent au président ivoirien de tout mettre en œuvre pour accélérer les procédures judiciaires liées à la crise post-électorale de 2010 et 2011. C'est un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. À Madagascar, la Cour constitutionnelle a ordonné au président de la République de nommer un gouvernement d'union nationale. C'est à la suite d'une saisie par l'opposition pour destituer le président. Éric Maniarakiza.
Dans son arrêt, la plus haute instance judiciaire du pays exige au président R. Rajaonara Miampianin de mettre fin aux fonctions du gouvernement et de procéder à la nomination d'un premier ministre de consensus dans un délai de 7 jours. La composition du nouveau gouvernement devra refléter proportionnellement les résultats des dernières élections législatives pour tenter de sortir de la crise qui secoue le pays. Il aura notamment pour tâche d'organiser une élection anticipée cette année, entre mai et septembre. Les élections présidentielles et législatives étaient à l'origine prévues à la fin de l'année. L'opposition avait déposé devant la Cour constitutionnelle une demande de destitution du président. La Cour ne s'est pas directement prononcée sur ce point, mais a ordonné la convocation dans les plus brefs délais de la Haute Cour de justice qui a le mandat de juger le président en exercice et les anciens chefs d'État. Cependant, la Cour n'a pas précisé qui comparaîtrait devant cette juridiction.
Aux Comores, le chef de l'État, Azali Assoumani, est accusé d'abus de pouvoir par l'opposition. Il a signé à résidence l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, interdit les manifestations et suspendu la Cour constitutionnelle. Le point avec Marie Benson.
Depuis le 19 mai, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, au pouvoir de 2006 à 2011, a été placé en résidence surveillée à Moroni, la capitale. Le président comorien, le colonel Assali Assoumani, l'accuse de troubles à l'ordre public. Des centaines de partisans de M. Sambi ont manifesté vendredi, mais ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Élu à la magistrature suprême en avril, M. Assoumani a suspendu la Cour constitutionnelle, disant qu'elle n'avait pas assez de juges nommés. Il a annoncé une réforme constitutionnelle pour le 29 juillet qui pourrait lui permettre de briguer plusieurs mandats successifs. Si la réforme est acceptée, il promet d'organiser une élection présidentielle anticipée en 2019. Pour l'opposition et la société civile, une telle réforme mettrait fin à la République et ouvrirait la voie à une sorte de monarchie. Avant l'institution en 2001 du système de la présidence tournante, les Comores ont souvent été agités par des crises séparatistes et plusieurs coups d'État.
Et en cette journée du 25 mai, l'Union africaine a célébré la journée de l'Afrique, commémorant la naissance de l'Organisation pour l'Unité africaine de l'époque. Elle a réitéré son appel à la lutte contre la corruption. Je veux nous mettre tous au défi, dirigeants et africains de tous les horizons, pour que l'on s'attaque à la corruption, a noté le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et la Corée du Nord s'est dite vendredi toujours disposée à dialoguer avec Washington, malgré l'annulation par Donald Trump du sommet prévu le 12 juin à Singapour. Le locataire de la Maison Blanche a aussi laissé ouverte la possibilité d'un nouveau sommet. Abdourahmane Dia.
Le premier vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen parle de décisions extrêmement regrettables, mais précise que Pyongyang est toujours prêt à s'asseoir face à face à tout moment et de quelque manière que ce soit pour résoudre le problème. L'annulation de cette rencontre tant attendue a été rendue publique hier, le jour même où Pyongyang déclarait avoir complètement démantelé son seul site connu d'essais nucléaires. La Chine, grand allié de Pyongyang, a appelé les deux parties à faire preuve de bonne volonté et de patience. Ce matin, sur Twitter, le président américain Donald Trump s'est félicité de la réponse plutôt conciliante de la Corée du Nord, disant espérer que tout cela aboutisse à la prospérité et à une paix durable. Les responsables américains ont expliqué la décision du président Trump d'annuler le sommet par une série de promesses non tenues et un profond manque de bonne foi.
Et le président américain Donald Trump a annoncé au Congrès avoir trouvé un accord pour régler le contentieux sur le groupe chinois de télécom ZTE. Selon les termes de cet accord, ZTE s'acquitterait d'une amende et changerait radicalement sa direction. Et en échange, l'administration Trump lèverait l'interdiction imposée mi-avril d'exporter des composants électriques américains comme les microprocesseurs indispensables à la fabrication des smartphones de ZTE. Ces derniers ayant violer ses engagements sur le respect des embargos commerciaux contre l'Iran et la Corée du Nord. Les Pays-Bas et l'Australie tiennent la Russie responsable de la catastrophe du vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en 2014. La Russie a réagi et selon elle, les Pays-Bas n'ont présenté aucun fait permettant de l'accuser et spéculent à des fins politiques sur la catastrophe. Si nos partenaires décident, quand on parle d'une terrible tragédie où des centaines de gens sont morts, de spéculer à des fins politiques, je les laisse avec leur confiance, c'est ce qu'a encore déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Et Hervé Weinstein s'est rendu ce matin dans un commissariat de Manhattan où il a été inculpé de viol et d'agression sexuelle. L'ex-producteur d'Hollywood devrait être présenté à un juge avant d'être libéré après s'être acquitté d'une caution $1 million selon le New York Times. Ce dernier aurait également remis son passeport aux autorités et porté un bracelet électronique. Une centaine d'actrices ont accusé l'homme de 66 ans d'agression sexuelle ou de viol. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'ONU débloque un fonds d'urgence de $30 millions pour aider les pays de la région du Sahel à lutter contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Le Tchad recevra $10 millions pour juguler la malnutrition. Le Burkina Faso va bénéficier de $9 millions pour maîtriser l'insécurité alimentaire. Le Mali aura $7 millions pour mettre en œuvre des opérations d'aide vitale dans les zones les plus exposées à l'insécurité alimentaire. La dernière tranche servira à Mauritanie pour réaliser des provisions de nourriture et d'offrir des services humanitaires. L'ONU indique que $1,37 milliard doivent être investis dans toute la région. Le Crédit Suisse va octroyer à l'Angola une ligne de crédit de $700 millions pour développer des projets stratégiques. Il y a quelques semaines, Luanda avait annoncé une émission d'obligations de $2 milliards sur le marché financier. À cela s'ajoute un prêt de $64 millions pour couvrir les besoins en matière de logistique alimentaire et pharmaceutique, conclu entre la Banque angolaise d'investissement et le ministère des Finances. Reprise des négociations sino-américaines sur le commerce le 2 juin à Pékin. La Chine et les États-Unis ont convenu la semaine dernière un accord sur leurs différends commerciaux. Les droits de douane prohibitifs étaient supposés entrer en vigueur dès le 22 mai sur $50 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis. Les droits de douane prohibitifs étaient supposés entrer en vigueur dès le 22 mai sur $50 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis. Pékin a promis d'augmenter les importations de produits américains sans fixer d'objectifs chiffrés.
C'est la musique qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
C'est le rendez-vous sportif à ne pas manquer demain, la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool.
Le Real de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane est en lice pour un troisième titre de suite, performance qui n'a plus été réussie en Europe depuis 1976. Et le Bayern Munich, il s'agirait du 5e sacre continental pour CR7 et du 3e en 3 saisons comme entraîneur pour Zizou. Le Real peut s'appuyer justement sur Ronaldo qui pèse déjà 15 buts dans cette édition. En face, Liverpool dispose d'un trio offensif de feu, amené par l'Égyptien Mohamed Salah. Dans son nombre, le Brésilien Roberto Firmino et le Sénégalais Sadio Mané qui réalisent eux aussi la plus belle saison de leur carrière. Real Madrid-Liverpool, c'est demain samedi à 18h45. Universel.
Et justement pour cette finale, Sadio Mané a pensé à son village natal.
Premier Sénégalais à disputer une finale de Ligue des Champions, Sadio Mané a décidé d'offrir 300 maillots des Reds à son village natal de Bambali au Sénégal. Il y a 2000 habitants dans le village, j'ai voulu que les fans puissent porter ces maillots pour regarder le match, a expliqué le Lion. Et pour ses vacances au pays, après la Coupe du Monde, Mané espère amener une médaille.
Préparation du Mondial 2018, les Lions de l'Atlas quittent le Maroc dimanche pour la Suisse.
Regroupés depuis hier à Rabat, les joueurs de la sélection marocaine vont prendre part à 3 entraînements avant de s'envoler pour un stage à Crans-Montana en Suisse. 3 matchs amicaux sont au programme pour les hommes d'Hervé Renard face à l'Ukraine, la Slovaquie et l'Estonie. En Russie, les Lions de l'Atlas pourront compter sur 11 500 supporters qui vont se rendre sur place. D'après le chef du gouvernement marocain, Sahdedine El Othman, Le Maroc joue son premier match contre l'Iran le 15 juin avant d'affronter le Portugal le 20 et l'Espagne le 25.
Et basketball pour finir, Houston n'est plus qu'à une victoire de la finale NBA.
Juste une victoire pour éliminer le champion en titre Golden State et accéder à la finale NBA. Après son succès à domicile 98-94, les Rockets mènent 3-2 avant le match numéro 6 qui aura lieu demain samedi à Oakland et avant, si nécessaire, le match numéro 7 deux jours plus tard à nouveau à Houston.
Merci Yakuba. Et Raissa Girondin, toujours avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Et direction la République démocratique du Congo, en raison du virus Ebola, les gens évitent désormais de se serrer la main ou de s'embrasser à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les gens ont dû adopter de nouvelles habitudes, contrairement à leur mode de vie habituel. À ce sujet, Eddy Sango a joint sur place l'inspecteur de santé de la province, Dr José Mozembela.
Les mesures générales de prévention ont été annoncées à toute la population. Donc, à l'heure actuelle, on ne se salue pas, hein. On ne s'embrasse pas. Voilà. On ne mange pas les gibiers ou les animaux de la forêt. Ce sont ces dispositions qui ont été prises.
Mais est-ce que les gens suivent cela dans la rue ou dans leur vie de chaque jour?
Bon, là, je pense qu'il faut mener une enquête, hein, une enquête et essayer de vérifier. Ben, nous pensons que les gens observent, hein, que déjà, sur terrain, tel que nous voyons, pourquoi il y a cette observation-là de cette mesure? Par exemple, au niveau de l'église, puisque là, à l'église, on est souvent habitué de se saluer à la sortie, à l'entrée. Mais en tout cas, ça a bien observé. Hein. Moi aussi, personnellement, ce dimanche, je suis par l'église. On a observé, hein, les gens essayent un peu d'observer, puisque ça fait de la crainte, hein, de la peur pour attraper cette maladie. Ce qui fait que, bon, nous voyons que les gens observent un peu cette mesure-là.
Les gens mangent généralement à la main et peut-être tous dans un même bol ou dans une même assiette. Est-ce qu'ils ont changé cela?
Bon, ici, on a des cultures mixtes. Hein. Il y en a qui mangent à la main, il y en a qui mangent avec les couverts, hein. Je ne saurais pas les dire d'emblée pour tout le monde comme ça. Donc là, il faut mener une enquête et voir les gens comment ils sont en train de manger. Hein. Comme chez moi, en famille, on ne mange pas la main, hein. nous mangeons avec les couverts.
Et à l'école, comment ça se passe? Quelles sont les habitudes que les gens ont prises là-bas?
Ça, c'est un point très important de la communication qui a ciblé d'abord et qui continue, cibler les leaders communautaires. Donc, on a eu à sensibiliser les leaders, entre autres les pasteurs, les chefs religieux des églises, responsables des écoles et d'autres couches de communauté pour répercuter le message. Je pense que les écoles sont les cibles principales qui ont eu à bénéficier et ont continué à sensibiliser pour adopter des comportements responsables. Il y a des lave-mains qui sont posés dans les lieux publics, hein, toutes les écoles, les églises, etc., pour observer ces mesures-là. Tous les contacts sont suivis avec les relais communautaires.
Et pour les marchands de la viande ou de la nourriture au marché ou sur la rue, quels sont les comportements que les gens adoptent?
La viande de forêt, en tout cas là, hein, il y a une interdiction de ne pas toucher. Bon, il faut passer au niveau des marchés pour vérifier si réellement c'est observé. Hein. Mais du moins, la population est sensibilisée dans ce sens-là.
C'est le docteur José Mozembela, inspecteur de santé de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Côte d'Ivoire, à 2 ans de la fin du mandat d'Alassane Ouattara, une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme demandent au président ivoirien de tout mettre en œuvre pour accélérer les procédures judiciaires liées à la crise post-électorale de 2010 et 2011. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
7 ans que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a pris fin et qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. 7 ans également que de nombreuses victimes de cette crise post-électorale attendent que justice soit faite. C'est au nom de ces victimes que ces ONG, dans une lettre ouverte adressée récemment au président ivoirien, lui demandent de tenir ses promesses électorales en matière de justice. Au nombre des signataires de cette lettre, il y a la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la FIDH, ou la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO. Pierre Kwasi Adjoumani, président président de la Lido.
Nous nous rendons compte que toutes les belles promesses qui ont été faites par le chef de l'État n'ont pas été tenues, en tout cas dans le domaine de la justice. À 2 ans de la fin de son mandat, nous lui disons, monsieur le président, attention, les victimes vous attendent. Pour qu'il y ait un développement harmonieux, il faut que la justice puisse suivre et pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Il faut qu'il y ait une justice, c'est lui-même qui l'a dit, qu'il y ait une justice pour tous.
L'opposition ivoirienne dit partager l'appel de ces organisations de défense des droits de l'homme. Mais pour Ouattara Nyonzier, président du Rassemblement pour la paix et le partage, le RPP, la justice ivoirienne a les mains liées.
Je ne doute pas de la compétence de nos magistrats, mais ils sont dans un environnement tel qu'ils ne peuvent pas véritablement s'exprimer comme il se doit. Je ne vois pas quel juge va envoyer un mandat à mener à quelqu'un qui se trouve être l'un des piliers de l'administration.
Pour la porte-parole du gouvernement ivoirien, il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, Anne Désirée Oloto.
Nous sommes dans un état de droit. Il y a tout un mécanisme qui est en train d'être mis en place par nos juridictions. Il faut permettre à la justice de faire toutes les enquêtes nécessaires et à terme, on pourra en tirer les conclusions.
Les ONG de défense des droits de l'homme s'insurgent également contre toute mesure d'amnistie à l'égard des auteurs des crimes commis dans le pays. Pierre Kouassi Adjoumani de la Lido.
Si il y a une loi d'amnistie, donc ça veut dire qu'il y aura une totale impunité en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que le chef de l'État d'alors, le grand Laurent Gbagbo, a pris une amnistie, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait cette guerre. Si il y a amnistie, c'est que les victimes seront laissées pour compte.
Sur la question de l'amnistie, l'opposition voit les choses autrement. Ouattara Nyonzier, président du RPP.
Des gens qui se promènent sont mis en cause par des documents commandités par le gouvernement lui-même et ils sont intouchables. Au moins, s'il y a un acte d'amnistie, on ne les a pas envoyés en prison, on ne les a pas jugés parce qu'il y a un acte d'amnistie. Au moins, il y a une raison. C'est ça l'idéal. Ou alors, on libère tous ceux qui sont en prison parce qu'il y en a qui sont intouchables.
La crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire a fait officiellement plus de 3000 morts. Une commission nationale d'enquête mise en place par le président Ouattara avait, dans un rapport rendu public, conclu à la responsabilité des partisans du président Alassane Ouattara et de son prédécesseur Laurent Gbagbo. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Et triste anniversaire pour la société civile au Niger. Ce 25 mai marque les 2 mois de détention de 26 activistes et membres de la société civile. Ils ont été arrêtés suite aux manifestations contre la loi de finances 2018. 10 ONG et organisations demandent la libération des détenus et l'arrêt des poursuites. Pour une réaction, Claire Morin-Gibourg a joint le coordinateur de la campagne Tournons la page, Laurent Duarte.
Évidemment, cette détention est très longue. Elle est étonnante dans sa durée, mais également, elle vient aussi illustrer une dérive du gouvernement nigérien qui, depuis maintenant plusieurs mois, durcit le ton et utilise de plus en plus la répression pour contester la voix de la société civile. Et quand je dis société civile, c'est non seulement les associations, telles que les associations de droits de l'homme qui ont contesté la loi des finances, mais c'est également la presse, puisque le journaliste indépendant Baba Alpha, après avoir été arrêté, a été expulsé du pays il y a quelques mois. La télévision et radio Labari, qui appartient à un des leaders de la société civile, a été fermée après l'arrestation d'Ali Idrissa, son directeur. Et récemment, on a vu également l'arrestation de plusieurs centaines d'étudiants et des tirs à balles réelles lors des manifestations d'étudiants. Donc on peut noter que les arrestations, elles sont longues, c'est vrai, mais elles illustrent surtout une dégradation très forte de l'état démocratique et de l'état politique du Niger.
Est-ce que vous pensez que cela va se dégrader ou est-ce que vous restez optimiste malgré tout ?
Je crois que la balle est dans le camp de l'État et du gouvernement nigérien et de la communauté internationale. Je pense qu'il est nécessaire que les leaders de la société civile soient libérés dans les plus brefs délais et que leurs droits de justiciables soient respectés, que la venue de Mamadou Issoufou à Paris la semaine du 4 juin soit l'occasion pour Emmanuel Macron et les partenaires européens de rappeler que, certes, la France et l'Union européenne soutiennent le Niger dans la lutte contre le terrorisme et dans la gestion des flux migratoires, mais qu'ils ne doivent surtout pas sacrifier les droits humains sur l'autel de ces de ce soutien à d'autres aspects. Et donc, moi, je pense que vraiment, il est possible d'améliorer la situation, si le gouvernement et la communauté internationale s'entendent pour favoriser une décrispation politique. S'il n'y a pas cette décrispation politique, je crois que malheureusement, il y a un risque fort que la contestation se poursuive, peut-être pas sur la loi des finances, mais sur d'autres sujets sociaux, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la question des étudiants. S'il n'y a pas une résolution de la question des bourses et d'un meilleur traitement des étudiants, je pense qu'il y a un risque d'embrasement pour la jeunesse.
Et c'était Laurent Duarte, le coordinateur de la campagne Tournons la page.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous terminons avec la voix d'or du mandingue. Kassé Madi Diabaté a tiré sa révérence hier au Mali à l'âge de 69 ans. Né en 1949 à Kéla, au Mali, près de la frontière guinéenne, Kassé Madi Diabaté, dont l'enterrement est prévu pour demain, certes est parti, mais laisse derrière lui un héritage musical impressionnant. Pour en savoir plus sur son parcours, Modibo Dembélé a joué à son frère Amara Diabaté, qui l'accompagnait dans toutes ses odyssées musicales.
Kassé Madi était un djeli, un griot, né à Kéla, grandi à Kéla. Il a tout fait pour ses parents. Son papa s'appelait Feu Djemoussa Diabaté. Sa maman, elle aussi, elle a disparu. Ça fait un bon moment. Elle s'appelait Jontan Kouyaté. Kassé Madi a toujours occupé, depuis que le gouvernement malien, sinon l'État malien, a fait la découverte de Kassé Madi. Kassé Madi, il est parmi les grands de la musique mandingue, sinon de la musique malienne.
Quel a été son apport, surtout dans l'histoire de la musique malienne?
Kassé Madi a formé beaucoup de jeunes musiciens, c'est-à-dire des jeunes chanteurs. Aujourd'hui, ils commencent à s'imposer sur le plan national et sur le plan international. Je prends l'exemple sur sa fille, Awa Kassé Madi. Je prends l'exemple sur un de ses garçons qui s'appelle le vieux Kassé Madi. Je prends un exemple sur un de ses frères cadets qui s'appelle Zoumana Kassé Madi. Donc vraiment, Kassé Madi, c'était un bibliothèque. Kassé Madi, c'était un grand de la musique malienne. Kassé Madi, il a laissé des œuvres pour nous. Inch'Allah, la relève avec votre appui, avec la bénédiction des parents, je sais que la relève est assurée.
Qu'est-ce que Kassé Madi laisse derrière lui en tant qu'héritage culturel pour la génération future?
Ce que Kassé Madi a laissé derrière lui, vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Il a formé beaucoup de ses enfants. Il a formé beaucoup de ses frères. Il a formé beaucoup de ses amis, de ses proches. Donc, Kassé Madi, il a fait des œuvres. C'est-à-dire, il n'a pas fait sa vie cadeau. Il n'a pas fait sa vie cadeau. C'est-à-dire, un homme, un être humain, une fois que tu es né, il ne faut pas vivre, comme ça. Il faut vivre pour servir les gens. Kassé Madi a servi le Mandé, il a servi le Mali et Ambe Douaouké. Vraiment, que son âme se repose en paix.
Et c'était son frère Amara Diabaté pour ce magnifique témoignage. On va se laisser avec la musique Simbo de Kassé Madi Diabaté. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Sims Lumami, Sidrak Franklin à la console, Raissa Girondin à la présentation. On se retrouve tout de suite pour un récapitulatif de l'information, mais vous pouvez nous retrouver sur voafrique.com pour plus d'actu. Excellente suite de programme.
Aïta je sogolu kabula Congo. A sogolu fantanya kaipantanya. Uluke samasi mamono. Mane murda uludoye kolonja. Simuna uludoye konyeri manyu. Mane murda uludoye konyate julo. Manuno, Malaka,